Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, première édition, Philippe Robuchon.
4000 soldats, plus de 200 véhicules, la patrouille de France. Dans un peu plus de 3 heures, le défilé militaire des Champs-Élysées sera placé sous le signe de l'Europe, de la coopération militaire européenne. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un nouveau commandement militaire dédié à l'espace. Parmi les personnels qui vont défiler tout à l'heure, pour la première fois, les escortes pénitentiaires. Des hommes et des femmes chargés de surveiller les détenus lors de leur transfert. Un document dans ce journal, Cindy Hubert pour RTL, a pu passer une journée en immersion à leur côté à la maison centrale de Poissy. Dans ce journal également, une panne d'électricité géante qui a plongé New York dans le noir pendant plusieurs heures. Le panache de Julien Alaphilippe qui reprend le maillot jaune dans le Tour de France. Et puis le retour gagnant hier soir du boxeur Tony Yoka après un an de suspension.
RTL Matin, Philippe Robuchon.
Avant de développer ces titres, les feux d'artifice, parce que le 14 juillet ne serait pas ce qu'il est sans les feux d'artifice, sans les traditionnels bals. Beaucoup ont eu lieu hier soir. Notamment à Nice, la ville a renoué avec la tradition, 3 ans après l'attentat qui avait ensanglanté la promenade des Anglais. Des feux d'artifice tirés dans les grandes villes, mais aussi dans de plus petites communes, comme au Martre de Verre. 4000 habitants, c'est près de Clermont-Ferrand. Guillaume Frixon y était hier soir, au milieu d'enfants toujours aussi admiratifs.
Les yeux rivés vers un ciel devenu multicolore, Yanis, Nathan, 7 et 9 ans, sont bouche bée et figés devant un feu d'artifice qui n'a strictement rien à envier à celui des grandes villes.
Ça brille dans le ciel et en plus ça explose.
Ils n'arrêtent pas d'y lancer dans les airs.
Et c'est beau ?
Oui, trop beau. Surtout quand ils lancent en même temps.
Et avant cela, ils étaient près de 300 à avoir marché dans les rues à la lumière des lampions et au rythme de la fanfare.
Ça représente peut-être un peu l'esprit de la fête, la France, et puis les gens sont disponibles à ce moment-là, quoi.
Et juste après le feu d'artifice, place au bal, animé par Éric Hervé, qui sait parfaitement comment mettre l'ambiance.
Un bal du 14 juillet, par définition, on a tout le monde. On a aussi bien la mamie, les petits-enfants, que les gens de 40, 50 ans. Donc il faut qu'on passe des années 80, des choses plus récentes, du latino, un peu tous les styles de musique, et puis faire ça avec entrain et bonne humeur, quoi, pour que ça se passe bien.
Tout en musique et en danse, la fête a duré jusqu'à 1h du matin, ici, au Martre de Verre.
Reportage Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL. Ce soir à Paris, la fête sera particulièrement encadrée car il y a le feu d'artifice à la Tour Eiffel et il coïncide avec la fin du match de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria. Un gros dispositif policier a été prévu pour éviter des incidents similaires à ceux qui se sont produits jeudi soir. Le défilé militaire tout à l'heure commencera donc un peu après 10h30. Comme le veut la tradition, c'est la patrouille de France qui ouvrira la cérémonie dans le ciel parisien. Pendant plus de 2 heures, 4000 soldats, je vous le disais, vont défiler. Le thème cette année, agir en commun. Concrètement, il s'agit de mettre en avant la coopération militaire européenne. Hier soir, le président Macron, favorable, on le sait, à une Europe de la défense, a fait une annonce, la création d'un nouveau commandement militaire dédié à l'espace. D'ailleurs, à terme, il faudra parler d'armée de l'air et de l'espace. Emmanuel Macron.
Il est nécessaire d'être à l'avant-garde, d'avoir un temps d'avance et d'innover. C'est ce que nous voulons pour nos armées, car c'est en remportant cette bataille que nous pourrons remporter toutes les autres. Nous renforcerons notre connaissance de la situation spatiale. Nous protégerons mieux nos satellites, y compris de manière active, et pour donner corps à cette doctrine. Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Les nouveaux investissements indispensables seront décidés.
Emmanuel Macron, micro RTL de Pierre Julien. Parmi les personnels qu'on va voir défiler tout à l'heure sur les Champs-Élysées, des hommes et des femmes qu'on n'a encore jamais vus lors des cérémonies du 14 juillet. Il s'agit des personnels pénitentiaires chargés des extractions judiciaires. En clair, ceux qui s'occupent des transferts de détenus. Auparavant, cette tâche était confiée à la police ou à la gendarmerie. On vous propose un document dans ce journal. Cindy Hubert a pu suivre pour RTL pendant 24 heures ces agents pénitentiaires qui travaillent à la centrale de Poissy dans les Yvelines. Ils réalisent 8000 escortes par an.
À chaque départ de mission, on sait que ça peut mal se passer. C'est un conditionnement qu'il faut avoir. Du moment qu'on est en train de s'armer intérieurement, on est déjà en mission.
C'est Rudy qui dirige l'escorte ce matin. Il tient dans une main l'ordre de mission, quelques lignes qui permettent de se faire une idée sur le profil du détenu. Grand banditisme, terrorisme, problème psychiatrique, c'est ce qui va permettre de déterminer le niveau de sécurité. Le trajet du jour, Poissy, Nanterre, puis Paris pour un homme qui a rendez-vous avec un juge. Les trois agents sont armés, le fourgon a été soigneusement vérifié, rien n'est laissé au hasard.
On ne connaît pas forcément l'état d'esprit des détenus qu'on prend en charge. Moi, j'ai une anecdote sur un détenu qui avait percé l'intérieur de sa bouche pour y cacher une lame de rasoir. Ça, on peut pas le prévoir.
À la maison d'arrêt, le détenu est donc fouillé, menotté, avant d'être enfermé dans une cellule du fourgon. Direction les geôles du nouveau palais de justice au Batignolles. Au volant, Luc, 10 ans d'expérience dans la pénitentiaire. La route défile et il faut parfois fermer les yeux sur les limites de vitesse et les feux rouges. Surtout, ne pas se retrouver à l'arrêt. Tout le monde a en tête l'attaque de Tarascon il y a quelques mois. Une évasion grâce à un commando lourdement armé.
On y pense forcément. Maintenant, on est sur, je ne vais pas dire un nouveau métier, mais un nouveau service où il ne faut pas rentrer dans la routine. Et rester toujours vigilant.
À la fin de l'année, tous les transferts de détenus seront effectivement effectués par des agents pénitentiaires et non plus par la police ou la gendarmerie. Une raison de plus pour faire défiler Luc, Rudy et leur collègue Gaël sur les Champs-Élysées pour la toute première fois.
Un reportage signé Cindy Hubert pour RTL. RTL qui vous fera vivre toute la matinée ce défilé militaire sur les Champs-Élysées grâce à nos envoyés spéciaux. À 9h moins le quart, je recevrai le gouverneur militaire de Paris, le général Leray.
RTL, 7h07.
Les obsèques de Vincent Lambert ont eu lieu hier dans la plus stricte intimité à Longwy en Meurthe-et-Moselle. Bien que très divisés, tous les membres de la famille étaient présents. À Montpellier, le procureur de la République a confirmé hier que la vitesse excessive était sans doute la cause du drame qui s'est produit jeudi soir. Je vous le rappelle, un chauffard avait fauché une famille, tuant la maman de 42 ans et blessant gravement ses deux enfants. Le conducteur a été mis en examen, mais il a été laissé en liberté par la juge d'instruction. De très violents incendies en Ardèche. Hier, 150 hectares de végétation ont brûlé au sud de l'aérodrome d'Aubenas. Heureusement, ni victimes ni dégâts. Sur les routes, ce dimanche est classé vert par bison futé. Les plus gros départs ont eu lieu hier. Les principaux bouchons, comme prévu, c'était dans la vallée du Rhône. Tout l'été, vous le savez, RTL et M6 et la prévention routière vous aident à circuler. On vous donne des bons plans, des conseils pour arriver à bon port. Ce matin, gros plan sur les routes chères à Jean-Yann, les routes départementales.
Je ne suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales.
Voilà, des routes départementales, Christophe Bourroux. Beaucoup plus accidentogènes, hein, comme on dit, que les autoroutes.
Alors c'est vrai, hein, l'autoroute est 5 fois plus sûre. Le danger sur ces routes départementales nationales est donc plus important, car il faut souvent composer avec d'autres véhicules qui ne roulent pas avec la même vitesse. C'est le cas d'un vélo ou d'un tracteur. Alors derrière ces véhicules lents qui roulent à 20-30 km/h, peut-on exceptionnellement doubler alors qu'il y a une ligne blanche par exemple? Réponse de Christophe Ramon de la prévention routière.
Selon le code de la route, on ne peut pas dépasser la ligne blanche. Il n'y a qu'une dérogation, c'est le chevauchement d'une ligne blanche pour dépasser un cycliste.
Toutefois, le tracteur ou la moissonneuse-batteuse peuvent être doublés dans certaines conditions.
Il y a une tolérance dans le cas de ce qu'on appelle les lignes de dissuasion. Vous savez, c'est dans les poitillés qui sont très rapprochés, qui vous dissuadent de dépasser parce qu'il y a des conditions de visibilité plutôt moyennes. Dans le cas de véhicules lents, vous pouvez déplacer un tracteur, par exemple, s'il y a une ligne de dissuasion.
Et cela ne dispense pas de mettre le clignotant. Cela concerne 7% des accidents où le conducteur oublie tout simplement de signaler qu'il double un autre véhicule.
Christophe Bourroux. À l'étranger, aux États-Unis, l'ouragan Barry rétrogradé en tempête tropicale. Le vent et surtout des pluies diluviennes continuent de s'abattre sur la Louisiane. Les autorités restent vigilantes. Toujours aux États-Unis, une panne d'électricité géante cette nuit à New York. Pendant plusieurs heures, Manhattan a été plongé dans le noir. Ça a provoqué pas mal de perturbations et cela faisait plus de 40 ans que ça n'était pas arrivé. Philippe Corbet.
Alors c'était une toute petite partie de New York, 72 000 clients seulement, mais le secteur de l'ouest de Manhattan, le plus vibrant, un samedi soir d'été, qui s'est retrouvé dans le noir, et ici le soleil se couche bien plus tôt que chez vous. La plupart des panneaux lumineux de Times Square se sont brutalement éteints, comme les néons du Rockefeller Center, le concert de Jennifer Lopez au Madison Square Garden interrompu, des dizaines de spectacles à Broadway annulés. Le chœur du Carnegie Hall a improvisé un récital dans la rue. Même chose sur le trottoir du Lincoln Center, près de l'opéra, un violoniste dans l'obscurité. Dans ces quartiers suréclairés de New York où il ne fait jamais sombre, il fallait allumer les torches des portables pour marcher dehors. Certains sont restés coincés dans le métro pendant plus d'une heure. Pas une lumière sur les quais, plus de feux au carrefour. Des habitants ont aidé les policiers à faire la circulation et éviter le chaos. Les agents doivent faire le tour des immeubles pour vérifier que les résidents coincés dans les ascenseurs ont pu se libérer. Certains ont préféré l'hôtel pour ne pas avoir à remonter à pied chez eux au 50e ou 70e étage. Au fond, le plus dur pour les New-Yorkais, ça peut être été de se passer d'air conditionné.
Oui, oui, parce qu'il fait très chaud actuellement à New York. Merci Philippe Courbet. Le courant est revenu d'ailleurs depuis quelques minutes. En France, je vous rappelle que c'est ce soir qu'aura lieu le tirage exceptionnel du loto du patrimoine. Il permettra de financer la restauration de plusieurs dizaines de monuments. L'an dernier, la première édition avait permis de rapporter 22 millions d'euros, sous l'impulsion évidemment de notre ami Stéphane Bern. Tiens, un retour qui fait plaisir.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane. Toujours debout.
Et oui, toujours vivant à 67 ans, et il le prouve, Renaud, dans les colonnes du Parisien ce matin. Il annonce la sortie d'un nouvel album pour l'automne. Il s'appellera Les Mômes et les Enfants d'abord. Renaud n'envisage pas de tourner pour l'instant. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas donné d'interview.
RTL, Tour de France 2019.
C'était certainement la plus belle étape depuis le début du Tour de France. La 8e hier entre Mâcon et Saint-Étienne, elle a souri aux Français, même si c'est un Belge qui l'a emporté, Thomas de Gendt, après une échappée de 200 km. Mais ce que l'on retient, c'est la formidable journée de deux Français, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe. Ce dernier d'ailleurs a repris le maillot jaune à l'italien Chicone, Nicolas Georgerot.
Comme à Épernay lundi dernier, Julien Alaphilippe avait annoncé la couleur. Et il n'y a que le jaune qui l'intéresse, reconquête réussie.
C'est incroyable. Je pense que quand on y a goûté, on est déçu hein, quand on le laisse. Donc 6 secondes, c'était beaucoup et pas grand-chose à la fois. Donc j'avais rien à perdre, j'ai pris les risques qu'il fallait prendre et je suis content que ça ait marché. Quoi.
Un coin de ciel bleu au Pays des Verts, Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot ont enflammé le final vers Saint-Etienne. Une collaboration intelligente qui les met tous les deux dans la lumière.
J'étais très content de voir Thibaut dans ma roue et voilà, à la fin, on a allié nos efforts. On avait chacun nos intérêts, hein, lui pour creuser l'écart sur les favoris et moi pour récupérer le maillot. Donc non, c'est une belle journée, je suis très content.
Un coup de force qui ouvre des perspectives, il peut rester leader du classement jusqu'à jeudi prochain. 7 jours en jaune, en un quart de siècle, il n'y a que Thomas Voeckler qui a fait mieux.
Nicolas Georgerot, aujourd'hui 9e étape du Tour, 170 km entre Saint-Étienne et Brioude. Brioude, la ville de Romain Bardet, qui n'est pour l'instant que 23e au classement général, mais qui sait, un 14 juillet et chez lui, il va peut-être sortir le grand jeu. En tennis, à bientôt 38 ans, Roger Federer défiera Novak Djokovic cet après-midi en finale du tournoi de Wimbledon. Tournoi qu'il a déjà remporté 8 fois, Roger. Mais évidemment, la partie sera coriace face au numéro 1 mondial. Hier, je vous rappelle que c'est la Roumaine Simona Halep qui l'a remporté chez les dames. En double, la paire française Nicolas Mahut-Edouard Roger Vasselin est passé tout près d'un exploit. Mais après un match marathon de 5 heures, c'est finalement le duo colombien Cabal Farah qui l'a emporté. En boxe, la bonne nouvelle de la soirée, c'est le retour gagnant du français Tony Yoka. Après 1 an de suspension pour ne pas s'être présenté à des contrôles antidopage, il remontait hier soir sur le ring face à l'allemand Dimitrenko, dont il n'a fait qu'une bouchée. Yoka a gagné par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. À Antibes, pour RTL, Mickaël Lefebvre.
Oui, après 386 jours sans combattre, Tony Yoka n'a pas fait dans le détail. Un crochet suivi d'un uppercut au milieu du 3e round a scellé le sort d'Alexander Dimitrenko, qu'on attendait peut-être un peu plus vaillant. Mais l'Allemand n'a rien pu faire face à l'excitation et l'envie du champion olympique français.
Il fallait tout de suite que je le bouscule d'entrée justement pour un peu effacer toute cette année de suspension parce que sinon j'allais commencer peut-être à me poser des questions. Donc j'avais vraiment envie de rentrer dedans d'un coup et du coup de commencer sans route d'observation.
Une victoire expéditive, un peu trop peut-être pour mesurer réellement si Tony Yoka a franchi un cap comme il l'espérait avant le combat. Un faux débat pour le Parisien.
Ça s'appelle des critiques. Les critiques, voilà, faut les prendre. Moi je préfère garder le côté positif. Le champion du monde l'a battu en 5 rounds. Si je l'avais battu en 8 rounds, on aurait dit que je suis derrière. Comme je le bats en 3 rounds, on va dire que je l'ai battu trop vite. Je m'en fous.
Soulagé et heureux, Tony Yoka redémarre sa conquête. Ses prochains combats, les 7e et 8e en professionnel, le mèneront à Nantes en septembre, puis à Paris en décembre. Avec des adversaires, on l'espère, encore un cran au-dessus.
Mickaël Lefebvre à Antibes pour RTL. En Formule 1, les deux Mercedes de Bottas et Hamilton partiront cet après-midi en première ligne du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Dans le monde du football, la famille Zidane en deuil. Le Real Madrid a annoncé hier la mort de Farid Zidane, frère aîné de Zinedine. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie à l'âge de 54 ans. Toujours en football, le nouveau coup d'éclat du Brésilien Neymar. Interrogé hier en marge d'un tournoi organisé pour sa fondation au Brésil, il a affirmé que l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière était la remontada, la fameuse victoire 6-1 de Barcelone sur le Paris Saint-Germain. Déclaration pas très corporate, comme on dit, pour le club parisien dont il fait officiellement toujours partie. On y reviendra tout à l'heure avec Yann Boucherie en ouverture du journal de 7h30.